France Culture, les romans qui ont changé le monde, Mathias Sénard.
Les romans changent-ils le monde ? Pendant 2 semaines, nous explorons 10 œuvres dont on peut assurer qu'elles ont changé quelque chose à la littérature et au 20e, voire au 21e siècle, en compagnie d'autrices et d'auteurs, de traductrices et de traducteurs, et de spécialistes de la littérature d'ici et d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage estival dans les romans qui ont changé le monde. Ce matin, en 1984, avec L'année de la mort de Ricardo Reis, roman de José Saramago, paru en France aux éditions du Seuil en 1988, traduit du portugais par Claude Fage. Moment tournant dans l'œuvre de José Saramago, mais aussi dans l'histoire du roman européen, L'année de la mort de Ricardo Reis est le roman d'un poète. Le docteur Ricardo Reis, après 16 ans d'exil au Brésil, revient à Lisbonne en 1935. Ricardo Reis est poète. C'est un poète élégiaque qui obtiendra un certain succès, mais il est surtout lui-même à son tour un personnage, un des hétéronymes de Fernando Pessoa. L'année de la mort de Ricardo Reis, c'est donc un roman de la poésie, un roman de Lisbonne, mais aussi un roman du double ou du triple, du reflet et de ses ombres des années 30. Ombre de l'Empire disparu, ombre de la dictature qui s'installe, ombre de la guerre d'Espagne qui commence, et ombre de cet homme, personnage à écrire, qui est Fernando Pessoa, et qui vient de mourir le 30 novembre 1935. Pour en parler, nous avons avec nous 3 spécialistes de José Saramago, de l'histoire du Portugal et de sa littérature. J'ai nommé Sarah Grünhagen, Sylvia Amorim et Yves Léonard. Sarah Grünhagen, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous êtes entre autres l'autrice d'un ouvrage consacré à José Saramago, intitulé « José Saramago et son atelier d'écriture » paru aux éditions Honoré Champion. Sylvia Amorim, bonjour.
Bonjour Mathias Sénard.
Vous enseignez à l'université de Bordeaux, qui porte le doux nom à nos oreilles de Michel de Montaigne. Vous êtes aussi une spécialiste de l'œuvre de Saramago. On vous doit l'essai « José Saramago, art, théorie et éthique du roman » paru à l'Harmattan, entre autres études sur la littérature contemporaine. Et bonjour Yves Léonard.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du Portugal, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous avez publié en 2022 une magnifique histoire de la nation portugaise chez Talendier, et au printemps dernier chez Chandaigne, ce petit livre « Sous les œillets, la Révolution ». Mais commençons, si vous le voulez bien, comme chaque matin, non justement, pas tout à fait comme chaque matin, par entendre un extrait du texte qui aujourd'hui n'en est pas vraiment un, mais un poème de Ricardo Reis lui-même. Ricardo Reis, né le 19 septembre 1887 sous le signe de la Vierge. Voici donc un premier extrait de sa poésie, lu par la comédienne Élodie Hubert.
Les roses des jardins d'Adonis, je les aime. Lydia, j'aime ces roses, ces volucres, car en ce jour où elles naissent, pendant ce même jour trépassent. Pour elles, la lumière est éternelle, puisque bien après le soleil elles naissent, et finissent avant qu'Apollon ait quitté son visible parcours. À leur instar, faisons de notre vie un jour, dans l'inscience, Lydia, cette fois volontaire, qu'il fait nuit avant et après le peu que nous durons.
Nous venons d'entendre un extrait d'une ode de Ricardo Reis, ce double personnage à la fois de Fernando Pessoa et de José Saramago. Qui était-il, Sylvia Amorim?
Alors, Ricardo Reis est une invention donc de Fernando Pessoa. C'est un hétéronyme, donc une personnalité littéraire née de la tendance, qui est presque une pathologie chez Pessoa, à la dépersonnalisation et à la simulation, hein, d'après les mots mêmes de Fernando Pessoa. Donc, parmi ces personnages qu'il s'est créé, cette galerie d'hétéronymes, qui s'affrontent, hein, qui parfois sont proches, mais d'autres sont assez divergents. Hein. Eh bien, on trouve Ricardo Reis, qui est l'hétéronyme le plus classique. Hein. Fernando Pessoa a dit « J'ai mis en Ricardo Reis toute ma discipline mentale ». Et ce n'est peut-être pas un hasard si Saramago a choisi précisément cet hétéronyme qui a une éducation très rigide. Hein, il a étudié dans un collège jésuite. Il est très classique aussi dans sa façon d'écrire. Hein. Il écrit des odes, donc il, Il s'inspire des écrivains de l'Antiquité gréco-latine. Donc voilà, c'est vraiment l'hétéronyme très classique qui s'oppose à d'autres hétéronymes. Je pense notamment à Alvaro de Campos, qui est peut-être son antithèse, qui est le poète futuriste.
Futuriste, moderniste, extrêmement voyageur. Ricardo Reis, effectivement, on a l'impression qu'il est un peu plus classique. Alors, quelle différence peut-on faire entre ce que serait un hétéronyme et un pseudonyme? On utilise toujours ce mot d'hétéronyme, on s'est presque habitué, oui, PSOS, c'est hétéronyme. Mais est-ce que c'est quand même pas un peu compliqué de se dire, qu'est-ce que serait la différence entre un hétéronyme et un pseudonyme, Sarah Grenagen?
Bon, les hétéronymes sont, selon Pessoa, des figures indépendantes. Ils dialoguent entre eux.
Parce que c'est Pessoa lui-même qui fait cette définition. Il utilise, lui, le mot d'hétéronyme.
Il utilise, lui, le mot d'hétéronyme. Il va faire la différence entre les hétéronymes, les figures indépendantes qui dialoguent, qui échangent des lettres. Chacun a son propre style. Et l'orthonyme, qui c'est lui-même. C'est-à-dire qu'il y a déjà chez Pessoa ces dialogues entre deux niveaux et cette transposition des deux niveaux entre l'auteur, Fernando Pessoa, et ses créations, les hétéronymes, et surtout ces trois qui sont les plus connus, Ricardo Reis, Alberto Caeri, Álvaro de Campos.
Est-ce que Ricardo Reis a été publié du vivant de Pessoa ou pas?
Oui, quelques poèmes, oui. Oui, Ricardo Reis est l'un des plus connus, mais la plupart de ses poèmes est paru après. Dans les années 40, les odes de Ricardo Reis. Mais il y avait déjà quelques poèmes publiés de son vivant, de Fernando Pessoa.
C'est bien vrai.
Alors pour l'anecdote, José Saramago, pendant son époque de lycée, alors qu'il avait 17 ans, avait trouvé dans la bibliothèque de l'établissement qu'il fréquentait, en fait, une revue littéraire, Athéna. Et il y avait lu des poèmes de Ricardo Reis. Et il était convaincu qu'il existait un poète portugais nommé Ricardo Reis. Il a découvert plus tard qu'il s'agissait en fait d'une facette de Fernando Pessoa.
Alors Yves Léonard, pour un historien, c'est un personnage extrêmement intéressant puisqu'il n'existe pas et pourtant il raconte une histoire du Portugal entre l'exil de Ricardo Reis justement au Brésil et son retour à Lisbonne.
Oui, c'est un personnage à la fois fascinant et pour l'historien, c'est une source de réflexion absolument incroyable et plus généralement, les romans de Saramago le sont. Hein, et sont une illustration, un reflet, une réflexion sur l'histoire notamment contemporaine du Portugal qui est de premier plan. Alors, Ricardo Reis, effectivement, on voit dans le roman qu'il arrive de Rio, qu'il arrive du Brésil, et ça n'est pas neutre, compte tenu de l'importance des relations entre les deux pays, de l'importance d'une présence aussi, d'une émigration forte portugaise au Brésil depuis très longtemps, et puis aussi des remous et l'évolution du Brésil dans les années 1930, avec l'évolution d'un régime qui va se présidentialiser et se durcir de plus en plus avec cet apprenti dictateur qui va le devenir, Getúlio Vargas, qui est au pouvoir à partir du début des années 1930. Et d'ailleurs, dans le roman, on voit bien que le personnage de Ricardo Reis est inquiété par la police politique, parce que justement, il rentre du Brésil et qu'on se demande bien pourquoi, après 16 ans passés au Brésil, il rentre. Et évidemment, pour le régime salazariste, ça a une résonance, une signification particulière. Donc c'est un personnage très riche, effectivement.
Justement parce que le Portugal vient d'entrer dans l'ère de Salazar, quelques années plus tôt.
Alors oui, le régime salazariste s'est mis en place progressivement. Salazar a été nommé ministre des Finances en 1928. C'est un professeur d'université, professeur de droit, enfin avec une spécialisation, on dirait, en comptabilité publique, finances publiques, et qui fait de lui, aux yeux des militaires qui ont pris le pouvoir 2 ans plus tôt, qui fait de lui le recours, la solution pour régler le problème financier, en gros. Et c'est à ce titre-là, on va le surnommer le magicien des finances, parce qu'en fait, il impose une cure d'austérité, ni plus ni moins, qu'il va conquérir le pouvoir et assurer finalement sa présence, alors qu'au départ, il ne porte pas l'uniforme, c'est pas un militaire. Il est issu d'une petite formation politique, le Centre catholique, et il n'a pas un passé politique très important, même si c'est quelqu'un qui a des idées politiques. Et donc c'est cet homme qui va, en 1932, être nommé président du Conseil. Donc les militaires lui donnent les clés à un civil, ce qui est quand même un processus assez atypique dans le contexte de l'époque. Il va prendre les clés et il ne va jamais les rendre jusqu'à son effacement en 1968 sur un AVC.
Et puis son régime va perdurer ensuite jusqu'en 1974, c'est-à-dire exactement 10 ans avant que Saramago ne publie l'année de la mort de Ricardo Reis. À quel moment est-ce qu'on est dans son œuvre, Saramago, au moment où il commence à écrire l'année de la mort de Ricardo Reis?
Oui, ça c'est très important pour la trajectoire de Saramago. En effet, c'est quelqu'un qui est devenu un écrivain assez tardivement, au moins comme romancier. Donc, il va publier Relevé des terres en 1980. Après Les Dieux Manchots en 1982, et Les Dieux Manchots est un vrai succès. C'est Les Dieux Manchots qui fait vraiment la renommée de Saramago.
Les Dieux Manchots, je crois que c'est un des premiers qui est traduit en français d'ailleurs.
Oui, c'est le premier, tout à fait. C'est le premier ouvrage en 1987. Et L'année de la mort de Ricardo Reis, qui est paru en portugais en 1984, sera traduit ensuite en 1988. Voilà, 1984 pour les Portugais. Et c'est très tôt qu'on va traduire Saramago. Je pense que ça, c'est assez intéressant. C'est l'époque, les années 80 dans l'œuvre de Saramago sont très, très importantes. Ce sont les romans dits historiques, qui dialoguent beaucoup avec l'histoire de Portugal. Et jusqu'à 1991, avec l'Évangile selon Jésus-Christ, qui est un peu un roman de transition. Et cette époque-là, pour les romans des années 80 jusqu'à l'Évangile, Saramago a fait beaucoup de recherches. Et on voit ça dans les romans, les journaux qu'il a consultés, surtout pour ces romans-là. Mais pour les autres romans de cette décennie aussi, il était un chercheur, il était un romancier-chercheur.
Sylvia Amorim, José Saramago commence l'écriture de l'année de la mort de Ricardo Reis. Alors, quelle idée il en a au moment où il se met à l'écrire? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Parce qu'on imagine bien que c'est pas uniquement prendre un hétéronyme de Pessoa. Oui, effectivement, il a ce souvenir de cette bibliothèque, mais on sent bien que derrière un roman d'une telle envergure, il y a autre chose. C'est à travers la vie imaginaire de Ricardo Reis d'aller un peu plus loin.
Alors, parmi les odes de Ricardo Reis, il y en a une où Ricardo Reis affirme que sage est celui qui se contente du spectacle du monde. Et ça, c'est quelque chose que Saramago a lu et qui l'a choqué, hein, qui est une position qui n'est pas soutenable pour Saramago, qui est un homme de conviction, qui est un homme engagé,
communiste,
un citoyen engagé, communiste, effectivement. Et pour lui, être indifférent à ce qui se passe autour de soi n'est pas possible, hein, n'est pas envisageable. Donc, il prend une sorte de revanche sur ce personnage qui lui paraît un peu antipathique. Hein, et il va justement le lancer dans probablement la période la plus délicate, la plus compliquée de l'histoire du XXe siècle au Portugal, qui est ce début de dictature. C'est le moment où les choses se mettent en place et où le Portugal est en train de basculer dans un régime autoritaire. Et là, Ricardo Reis voit effectivement ce qui se passe autour de lui, qui le perturbe. Hein, il est souvent affecté par ce qu'il voit, mais en même temps, il n'est pas capable de prendre position. Hein, il n'est pas capable de s'opposer. Il va lui-même être affecté par ce régime. Il va être suivi par un policier, par la police politique. Il va être en quelque sorte victime de cette répression un peu arbitraire. Hein. Et pourtant, il relève toutes les incohérences dans la presse quand il lit les nouvelles du Portugal, quand il voit la censure, quand il constate la propagande qui est évidente dans les journaux, qu'il arrive à analyser, mais il n'est pas capable de critiquer ce régime. Et voilà, il persiste dans son attitude. Il a en quelque sorte ce rôle qui lui a été assigné par son créateur, Fernando Pessoa, et il doit rester dans ce périmètre. Il est incapable de sortir de ce périmètre-là.
Alors, pour en revenir aux recherches dont vous parliez, Sarah Grünhagen, est-ce que l'historien Yves Léonard, quand il lit l'année de la mort de Ricardo Reis, retrouve justement cette documentation extrêmement présente et un portrait, alors réalité, je ne sais pas si ce serait le mot dans le cadre d'un roman, mais en tout cas, une image assez plausible, en tout cas assez fidèle de l'époque?
Oui, alors à la fois une image fidèle, plausible, mais aussi pour l'historien, et surtout quand le roman est écrit et conçu au début des années 1980, une mine d'informations sur l'histoire par le bas, on va dire, c'est-à-dire cette réalité quotidienne, de la vie quotidienne au temps de Saint-Lazare, au milieu des années 1930, à une période clé effectivement où le régime est en train non seulement de se consolider, mais de s'orienter vers un autoritarisme de plus en plus fort. C'est ce qu'on va appeler le Badigeon à la romaine, ou l'imprégnation, le champ magnétique des fascismes, parce que aux portes du Portugal, il y a la guerre civile en Espagne, il y a l'évolution des autres régimes. Et donc, pour l'historien, c'est extrêmement précieux, parce que on voit bien qu'il a eu accès, et puis il y a aussi, il est né en 1922, il y a des souvenirs personnels, familiaux, qui alimentent sa réflexion, qui sont extrêmement utiles sur l'usage de la radio, par exemple. C'est tout à fait fascinant, il y a un chapitre où on écoute la radio, et effectivement, dans la deuxième partie des années 30, eh bien, il y a l'essor de ce média, qui est notable, la création de la chaîne de radio nationale, le rôle, effectivement, de la propagande, cette presse qui est muselée, qui est aux ordres, et cette vie quotidienne dans une ville comme Lisbonne, qui est très bien renseignée, très bien décrite, et qui, pour l'historien, ça nous pose toujours, mais c'est le rapport de l'historien de la littérature, qui nous pose toujours un certain nombre de défis, de questionnements, parce que, et dans les autres romans de Saramago, la veine historique est très présente. Relevé de terre, par exemple, est un roman d'histoire sociale absolument extraordinaire, et qui nous dit très précisément ce qu'a été la réalité de la vie quotidienne, en Alentejo notamment. Et bien là, toutes choses égales, on a à travers ce personnage de Ricardo Reich et des gens qui l'entourent, de cette vie des exilés espagnols qui ont, avant la guerre civile, bref, cette vie du quotidien qui est extrêmement fine, bien, bien campée, et les illustrations qui sont faites aussi du rôle de la police politique au quotidien, on va dire, qui instille la peur, cette administration de la peur qui va être constitutive du régime, et bien tout ça est véritablement très, très, très bien documenté.
Sarah Gunnagel, José Saramago est quelqu'un qui vient tard au roman, et l'année de la mort de Ricardo Reis est écrit alors qu'il a déjà pratiquement 60 ans, plus de 60 ans, et puis sera publié quand il en a 62. Est-ce que justement cette espèce d'expérience de la vie, peut-être d'accumulation de l'histoire du Portugal, est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait attendre toutes ces années pour pouvoir écrire des romans comme l'année de la mort de Ricardo Reis?
Oui, l'histoire de Saramago est très intéressante dans ce sens-là. En effet, il a publié un premier roman quand il avait 24 ans. Ça n'a pas vraiment marché. Ça s'appelle Terre du péché. C'est un roman de lecteur. Donc, il est très proche d'Assé de Queiroz. Après, José Saramago...
Assé de Queiroz, qui est la grande figure littéraire du 19e siècle.
Tout à fait, l'écrivain portugais du 19e. Et José Saramago, il vient de loin. Ça, c'est important. Il vient d'un milieu assez pauvre. Il a beaucoup travaillé. Il a eu une longue trajectoire comme journaliste et aussi comme traducteur. Donc, ça, c'est assez intéressant. Il a traduit plus de 60 titres du français vers le portugais. C'est-à-dire qu'il a beaucoup écrit avant d'écrire ses propres livres. C'est une façon d'écrire aussi. Et après la Révolution, je pense que ça, c'est aussi important, il est devenu écrivain et un romancier qui se reconnaît comme romancier. Après la Révolution de 1914, il a un roman qui s'appelle Manuel de Pontiou et de Calligraphie, qui raconte cette transition. Et il s'appelle au début Essai des romans. Cet effort de construire un roman. Et finalement, l'idée pour l'année de la mort de Ricardo Reis est venue avant Les Dieux Manchots, mais il ne se sentait pas prêt pour l'écrire. Donc après Les Dieux Manchots, maintenant je peux faire face au monument Pessoa, au monument Ricardo Reis. Ce qui est important aussi, qu'en 1982, c'est la redécouverte du livre de l'intranquillité.
Une de l'inquiétude, aujourd'hui, dans une deuxième traduction.
Ça a changé, okay. Tout à fait. Mais c'est
le même. Hein.
C'est un ensemble des fragments en prose qui a vraiment fait la renommée de Fernando Pessoa. Ça, c'est le moment aussi de l'institutionnalisation de Fernando Pessoa. Et Saramago va répondre à ces canons. Les canons est en discussion, est discuté, est remis en question. La place du canon est remis en question dans ses romans.
Alors Sylvia Morim, justement, dans l'année de la mort de Ricardo Reis, puisqu'on vient de prononcer son nom, bien évidemment, le personnage qui est là, que Ricardo Reis vient voir, sans le savoir, en tout cas, qui va rencontrer un peu au hasard de ses parcours dans la ville, c'est Fernando Pessoa.
Oui, alors effectivement, le personnage de Fernando Pessoa, qui est mort, et qui est la raison pour laquelle Ricardo Reis rentre au Portugal, apparaît plusieurs fois dans le roman. Alors, c'est un personnage un peu fantomatique. Hein. Il n'y a que Ricardo Reich qui peut le voir. Il se montre uniquement s'il le souhaite. Et donc, il est mort donc, le 30 novembre 1935. Et Ricardo Reich arrive un mois après. Hein. Il débarque à Lisbonne, donc rentré précipitamment du Brésil. Ce qui est intéressant dans le roman, ce sont les dialogues très nombreux entre ces deux personnages qui n'en sont qu'un. En réalité, ce sont vraiment les deux facettes d'une même personnalité et qui ont des dialogues très intéressants à la fois sur l'identité, sur l'actualité aussi, sur leurs œuvres poétiques respectives. Donc, c'est à la fois l'identité et l'altérité qui se font face. Et donc, voilà, il y a ce jeu de miroir qui est très intéressant dans le roman, effectivement.
Mais ça me semble une liberté assez extraordinaire et fascinante pour un auteur. C'est-à-dire de se dire, non seulement je vais utiliser comme protagoniste le personnage de quelqu'un d'autre, enfin, l'hétéronyme de Fernando Pessoa, mais je vais même mettre son créateur, qui est devenu, entre-temps, le phare des lettres portugaises, celui que l'univers entier connaît, peut-être même le seul poète portugais que connaissent énormément de gens sur la planète. Et tout ça, je l'utilise dans un roman. C'est un courage qui me paraît, puisqu'à l'époque, José Saramago n'a pas encore publié de grande œuvre. Il est loin encore du prix Nobel. Il n'a pas ce poids symbolique qui pourrait lui permettre ça. Et il trouve quand même cette liberté. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'assez fascinant, Sarah Gonagan?
En effet, je pense que Saramago ose beaucoup. Il se propose de poursuivre les gestes créatifs de Fernando Pessoa. C'est assez courageux et je pense que c'est intéressant ce que Sylvia disait par rapport à Fernando Pessoa et Ricardo Reis. Le temps du roman se passe dans 9 mois. Donc, et c'est précisément les 9 mois dans lesquels Fernando Pessoa est en souvenir. Et ça correspond aux 9 mois avant la naissance, quand on existe.
De l'accouchement, effectivement, de cette vie intra-utérine, on pourrait dire.
C'est ça, oui, c'est ça. Donc, il parle vraiment, c'est un roman aussi sur les rapports à la mémoire et comment on va se souvenir de ces écrivains, qu'est-ce que ces écrivains vont devenir. C'est une façon d'oser, mais c'est aussi un hommage très subtil à Fernando Pessoa. Il a des, si je peux me permettre, je peux même lire. Il a un extrait dans lequel Ricardo Reis parle à Marcenda. Il essaye de justifier pourquoi il était en train de parler avec les fantômes. Il ne veut pas être appelé au fantôme de Fernando Pessoa. Et il dit qu'il était en train de penser au vers de Fernando Pessoa. Il lit ses vers et Marcenda va dire « Non, mais ces vers sont très, très simples. Personne ne pourrait écrire ça. » Il dit « C'est vrai, ils sont très simples. » Et Marcenda répond « Mais oui, il fallait cette personne pour le dire. » Donc, c'est un hommage. C'est très subtil, c'est très délicat, mais c'est aussi un hommage à Fernando Pessoa.
Je crois qu'il y a une seule chose qui est plus forte que la mort, c'est la mémoire. Si on garde la mémoire des amis, des gens qu'on a aimés, pendant que la mémoire les préserve de l'oubli, la vraie mort, c'est l'oubli.
France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Nous voulons entendre José Saramago lui-même au micro d'Alain Weinstein sur France Culture. La mémoire et l'oubli, est-ce que c'est pas justement réellement le matériau dont est fait l'œuvre de Saramago, Yves Léonard?
Ah oui, c'est une réflexion effectivement d'une grande portée sur ce rapport très complexe entre la mémoire et l'oubli. Et justement, pour compléter, poursuivre ce que nous évoquions tout à l'heure, Saramago réunit finalement dans ses romans, et celui-ci en particulier, des sources documentaires qui sont une manière effectivement de répondre à cette culture de l'effacement. Sinon de l'oubli qu'a entretenu, cultivé la dictature salazariste. C'est-à-dire que tout était basé sur cette espèce de croyance qu'il fallait faire vivre le Portugal habituellement, comme disait le dictateur lui-même, autrement dit, dans un ordre, le respect d'un ordre immuable des choses, où finalement tout était un petit peu atone, interchangeable, et si on respectait cet ordre immuable des choses, eh bien il ne vous arrivait rien. Le problème arrivait justement lorsqu'on s'interrogeait sur ce qui se passait au Portugal. Et ça renvoie un portrait en creux justement de cette réflexion très, très ambivalente entre Pessoa et son hétéronyme, parce que Pessoa aussi était très ambigu à certains moments sur, il disait, n'avoir pas d'opinion c'est exister. Et c'est un homme aussi, alors à la fin de sa vie, il a écrit assez discrètement quelques textes très critiques sur Salazar et le régime. mais il a été récompensé à son corps défendant par le régime salazariste qui avait repéré en lui un bon produit avec ce recueil de poèmes auquel il est fait référence, Mensagem, qui est le message, et qui est un texte tout à fait étonnant, que la propagande lui a accordé un prix. Alors, on ne lui a pas remis directement, il a pris ses distances, mais voilà, c'est une réflexion qui est effectivement très pessoenne, ou je ne sais pas comment dire, sur ce rapport de la mémoire et de l'oubli.
Sylvia Morim, il y a un côté extrêmement mystérieux dans ce qu'on pourrait appeler le phénomène Pessoa. C'est-à-dire justement comment est-ce que un poète qui n'est pas du tout du centre, qui grandit à l'extérieur, qui grandit en Afrique du Sud, qui n'a pas du tout une formation justement classique dans cet établissement si fermé des lettres portugaises, qui a une vie comme ça, lisboète, d'alcoolique avec ses camarades dans les tavernes, finit par devenir le plus grand poète représentant du XXe siècle au Portugal, et même peut-être même de l'Europe au XXe siècle, si on en croit aujourd'hui le nombre de touristes qui vont devant la Brasileira se faire des photos dans les bras de Fernando Pessoa. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
Probablement, c'était un poète de son temps. Il a saisi quelque chose de son époque. On parlait tout à l'heure de la face moderniste, notamment d'Álvaro de Campos. Et effectivement, il a senti ce changement qu'il fallait traduire en poésie, avec notamment cette fragmentation de lettres. Et peut-être qu'avec beaucoup de justesse, il l'a transposé dans son œuvre littéraire, ce changement du monde.
Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une espèce de magie de dire, oui, mais justement, comme il a des dizaines d'hétéronymes, il y a un Pessoa pour tout le monde. Il y a un Pessoa pour les gens comme moi qui aiment bien plutôt Campos, il y a un Pessoa pour les classicistes à la Ricardo Reich, pour les mélancoliques à la Bernardo Soares. Il y en a un peu pour tout le monde.
Oui, oui, tout à fait. Et les préférés, les Pessoa de Saramago, est bien Ricardo Reich. Là, c'est assez paradoxal parce qu'il adorait Ricardo Reis, mais en même temps, il n'était pas du tout d'accord avec lui. Je reviens à ce qu'il disait Yves Léonard, ce roman est un manifeste contre l'oubli, mais aussi contre l'indifférence incarnée par ces Ricardo Reis, qui a des poèmes, des odes merveilleuses, mais en même temps, il sera confronté ses choix de s'aliéner du monde, à remise en cause, de telle sorte qu'il devient impossible pour Ricardo Reis d'assumer cette indifférence.
Mais alors, il est comment le Pessoa de Ricardo Reis, du roman en tout cas, tel qu'il nous apparaît dans l'année de la mort de Ricardo Reis de Saramago, Sylvia Morim?
Le personnage de Fernando Pessoa.
Pas le Pessoa historique, mais le
on finit par se perdre
le Pessoa prime de José Saramago.
Ah, le Pessoa réfléchit sur le moment où il était vivant. Je pense qu'il réfléchit depuis l'endroit où il est, cette mort qui est, cette transition entre la vie et la mort. Il réfléchit, il fait un peu le bilan de son œuvre. Il va effectivement reconnaître l'écriture de Mensage, ce texte qui a été récupéré par la propagande salazariste. Et en même temps, il va aussi reconnaître qu'il a eu des pensées critiques envers Salazar, mais en même temps, il a eu certains discours assez ambigus sur l'esclavagisme. Donc, il y a une sorte de bilan de ses propres contradictions qui apparaissent.
Alors, contradictions qui sont dans le roman qui sont très intéressantes, parce qu'à partir du moment où un hétéronyme devient de chair et d'os dans un roman, ça veut dire qu'il n'y a plus que l'orthonyme Fernando Pessoa qui peut exister. Les autres deviennent aussi des corps dont on imagine qu'ils vivent quelque part entre les pages. Donc on s'attend à voir débarquer justement Álvaro de Campos et les autres. Et donc le Pessoa que nous montre Saramago, c'est peut-être le plus vrai, le plus nu finalement, celui de Message. Ou pas forcément.
Oui, moi je pense que c'est l'époque de la remise en question de Fernando Pessoa par Fernando Pessoa. Il y a cette mise en scène-là dans le roman.
Il est important de dire que les mots orthonyme et hétéronyme n'apparaissent jamais dans les romans. Nous, on va faire ces rapprochements, c'est naturel, mais Ricardo Reis est un personnage transfictionnel. Il devient vraiment un personnage dans les romans. Et Fernando Pessoa aussi est un personnage. Saramago va souvent jouer sur ces informations-là. Il faut dire, les gens ont les mêmes noms, il faut faire attention, mais ils ne sont pas toujours la même personne. Les Fernando Pessoa de Saramago, Ricardo Reis va lui dire, je ne te reconnais pas. Vous parlez de choses-là qui vous ne parliez pas auparavant, c'est assez intéressant. Et par rapport à l'institutionnalisation de Fernando Pessoa, il en parle, on a souvent deux temps dans les romans, le temps du récit et le temps du discours. Et Saramago va jouer sur ça aussi. À un moment donné, Fernando Pessoa va dire « Je ne veux pas qu'on fasse des statues de moi ». Pas du tout. Et c'est très ironique quand on est en train de lire les romans aujourd'hui, parce que tout le monde qui va à Lisbonne va prendre une photo de la statue inaugurée dans les centenaires de la naissance de Fernando Pessoa.
Il y en a.
Oui, il y a aussi effectivement ce regard assez critique et ironique sur Pessoa dans ce face-à-face qui revient à plusieurs reprises avec le grand poète national Camoens, et dont on relève effectivement que dans Message, il dit mais finalement j'essaye de retrouver le texte sur Camoens et il n'y est pas, alors que j'ai parlé de tout le monde, de ce grand poème primé par la propagande, parce que c'est le récit nationaliste, ça épouse trait pour trait le récit que le régime salazariste essaye d'écrire à ce moment-là, c'est-à-dire une espèce de mise en valeur de la splendeur du Portugal historique, la continuité depuis l'expansion, les Lusiades, les Lusitaniens, bref, toute cette histoire, avec en creux la statue d'Adamastor qui revient régulièrement pour ponctuer un peu le récit. Et là, on a cette ironie, on a ce regard très, très critique finalement, en disant mais j'ai oublié finalement qu'à moi, je n'y ai pas dans tout ça. Alors qu'il est omniprésent dans la culture au Portugal, la culture portugaise, et qu'il est omniprésent dans le régime salazariste, parce que c'est le jour, le 10 juin, et d'ailleurs à un moment on l'évoque, le 10 juin, c'est le jour de célébration, le jour de la fête nationale, le jour de Camões, et dit-on à l'époque du Portugal et de la race, comme on dit à l'époque. Mais c'est le jour national du Portugal.
Écoutons Fernando Pessoa, cette fois-ci chanté par Missia.
De mágoas. desborde de dolor.
Venons d'entendre la fadiste Missia chanter ce poème de Fernando Pessoa, Danza de Magos, la danse des peines. Et, il y a chez Pessoa peut-être justement, et qu'on retrouve très bien dans l'année de la mort de Ricardo Reis, une espèce de figure extrêmement urbaine. C'est-à-dire que l'année de la mort ou l'œuvre de Pessoa est complètement associée avec la ville de Lisbonne, certes. Ville de Lisbonne qui est aussi la capitale, bien sûr, du Portugal et aussi le symbole peut-être de sa plus grande réussite. Mais néanmoins, l'année de la mort de Ricardo Reis, c'est peut-être avant tout un roman lisboète, Sarah Connagan.
Oui, tout à fait. Et la Lisbonne de l'année de la mort de Ricardo Reis hérite quelque chose de la Lisbonne du livre de Desassossego, les livres de l'intranquillité ou de l'inquiétude. Saramago a même écrit sur ces points-là, il voudrait récupérer les éléments, l'ambiance du livre de Desassossego. L'effroi, la pluie, la boue, les rires tristes, tous ces éléments-là sont présents. Et ça passe aussi par un autre poète, César Vecchi du 19e siècle, qui était une référence importante pour Fernando Pessoa. Donc c'est le paysage dans lequel Saramago nous introduit, est un paysage qui est tout à la fois géographique et littéraire. La Lisbonne de l'année de la mort de Ricardo Reis n'est pas qu'une ville, c'est une ville littéraire. Et on a déjà parlé de Camões, de Sadi Quirós, de Fernando Pessoa, de Cesário Verdi. Ricardo Reis va même faire les chemins des statues, il va prévisiter ses écrivains, les canons, cette Lisbonne des écrivains.
Sylvia Marie.
Oui, et effectivement, il parcourt la ville labyrinthique de Lisbonne, qui est une ville de mots, qui est la ville physique, l'espace physique, mais aussi une cartographie littéraire, finalement, de la littérature portugaise, avec au centre de ce labyrinthe la statue de Camões, hein, qui est la référence absolue pour la littérature portugaise et pour la culture portugaise.
Et Yves Léonard, sur cette Lisbonne de l'époque de 1938 ?
Oui, enfin, de 1936, en fait, puisque
36,
il, c'est assez important parce que c'est un moment où, là aussi, la dictature et Salazar lui-même prend la mesure. Il a un rapport, Salazar, très complexe avec cette ville capitale dont il n'est pas originaire et dont il va toujours se méfier. C'est-à-dire que Lisbonne, pour lui, est la ville où, du danger, d'une opposition qui pourrait se cristalliser. C'est-à-dire que là d'où il vient, c'est-à-dire des Beiras, de l'intérieur des terres, évidemment, la culture n'est pas du tout la même, le rapport à la modernité est tout à fait différent. Et à Lisbonne, pour lui, c'est la ville des coups d'État, des soulèvements, et aussi d'une population urbaine dont il faut se méfier à ses yeux, c'est-à-dire avec un monde ouvrier qui commence à se formaliser. Et donc, pour Salazar, ces années 30, c'est un moment, et on le voit dans sa propre géographie personnelle à Lisbonne, il s'installe au début à l'hôtel, puis il prend un petit appartement pas loin de la place Marx de Pombal, pour ceux qui connaissent Lisbonne, qui est une place très importante. Et puis, c'est seulement en 1938 et en 1939 qu'il va s'installer dans le palais de São Bento, qui est le siège du gouvernement, du président du conseil. Mais pour Salazar, c'est une période, les années 30, où progressivement, il prend ses marques à l'intérieur de cette ville qui l'effraie, qui l'interpelle, dans laquelle il ne se sent pas à l'aise parce qu'il y a une nature qui n'est pas assez présente, il le dit assez souvent, et il va être victime d'un attentat quelques mois plus tard, en juillet 1937, qui va laisser des séquelles, pas physiques, mais dans son rapport à la ville de Lisbonne. Et donc c'est aussi en parallèle, on a, évidemment pour l'historien que je suis, ayant travaillé sur tous ces sujets, on a également une cartographie assez fine, assez précise et ponctué dans ce premier semestre 1936 d'événements qui ont été importants. Il y a l'évocation notamment de cette insurrection qui clôt le roman sur les bords du Tage avec ces navires qui vont faire sécession ou du moins se mutiner et qui est un moment fort en septembre 1936 qui marque l'acmé d'un processus finalement d'opposition au régime et c'est à partir de ce moment-là avec les mesures qui sont prises, la jeunesse portugaise qui est créée, la Légion, c'est évoqué à la fin du roman, la Légion portugaise qui est formée au moment de la guerre civile et le durcissement de plus en plus prononcé du régime que ça bascule. Et l'année 36, de ce point de vue-là, pour le régime et pour la ville de Lisbonne, est une année importante.
Sarah Grünhagen, est-ce que la Lisbonne de Saramago coïncide avec celle de Pessoa ou celle du roman? Ou est-ce que, on sait que Saramago n'est pas lisboète, il est né dans l'Alentejo, je crois.
Oui, au Ribatejo, un peu plus au nord de l'Alentejo.
Et quelle est sa Lisbonne, alors, à lui? Où est-ce qu'elle apparaît? Là, on a une Lisbonne historique, mais ça a été un peu un espèce de personnage récurrent, un peu dans son œuvre.
Oui, c'est un mélange, et il est assez intéressant, parce que l'espace est important, d'une manière générale, dans l'œuvre de José Saramago. Et Lisbonne, c'est un mélange de plusieurs Lisbonnes, ça c'est sûr. Il y a toute une bibliothèque dans ses romans. C'est aussi une Lisbonne borgésienne, ça c'est assez intéressant, les labyrinthes et tout ça. Saramago va récupérer des symboles tout le temps. Par rapport à cette Lisbonne historique, il est assez intéressant parce que Saramago utilise l'histoire pour lire les canons et vice-versa, les canons pour lire l'histoire. Et Lisbonne est cet espace dans lequel il a cette mise en scène des événements historiques et beaucoup de spectacles aussi, c'est important parce que Ricardo Reis est un spectateur qui est souvent présenté dans cette position des spectacles, les spectacles d'un bombardement par exemple, qui est même un peu comique dans ce sens-là. C'est la Lisbonne de Fernando Pessoa, la Lisbonne de Ricardo Reis, mais c'est la Lisbonne de Saramago aussi. Saramago n'est pas né à Lisbonne, mais il y a vécu plusieurs années. Il connaissait très bien les labyrinthes de Lisbonne, il connaissait très bien les journaux lisboètes. Il a travaillé pendant plusieurs années, il a même dirigé un journal pendant une période.
Bon, vous savez, l'amour, c'est une chose un peu compliquée parce qu'on ne sait pas. Nous vivons dans une civilisation qui est, d'un certain point de vue idéologique, c'est par le christianisme, non? C'est une culture, une civilisation de salut, de pardon, d'amour. Et Jésus, on dit qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'amour, non. Pas l'amour de l'inquisition, bon, pas l'amour de l'intolérance, non. Si au contraire de l'amour ou ajoutant quelque chose à l'amour qui n'est pas là, si on disait « respectez-vous les uns les autres », bon, je crois que ce serait peut-être mieux. Si nous arrivions à respecter le respect comme nous devions aussi respecter cette idée de qu'on doit s'aimer les uns les autres. Mais si on arrive à reconnaître l'autre comme l'autre et si on n'oublie pas que chacun de nous est l'autre de l'autre et que nous sommes tous autres, peut-être on arriverait à vivre mieux.
Nous allons entendre de nouveau José Saramago, lui-même toujours au micro d'Alain Weinstein sur France Culture, nous parler de beaucoup de choses dans ces quelques secondes. Tout d'abord de la grande affaire du Portugal, qui est quand même son rapport au catholicisme et à Jésus-Christ, qu'il a traité dans beaucoup de ses œuvres, peut-être pas tant que ça dans l'année de la mort de Ricardo Reis, mais c'est quand même présent sur ce fond, dans ce labyrinthe, bien sûr, lisboète, mais aussi de cette question de l'altérité qui, elle-ci, joue un rôle assez central dans le texte, Sylvia Morim.
Oui, effectivement, à travers la figure de Pso, on se pose effectivement la question de la multiplicité de l'être et effectivement dans les conversations entre Pso et Ricardo Reis, la question de cette fragmentation apparaît. Et on a l'impression qu'il faut parfois être deux pour que les choses s'expriment et pour qu'il y ait ce débat qui fait sens. Et donc, effectivement, la question de l'altérité est toujours présente et toute l'obsession de Fernando Pessoa, je reviens à lui, autour des questions identitaires, apparaît à nouveau dans le roman et traité par José Saramago. Hein, parce que Pessoa était torturé peut-être par cette idée de l'identité, de sa propre identité, de sa place parmi les figures qu'il a lui-même créées, les figures des hétéronymes. Il se demandait peut-être s'il n'était pas lui-même aussi la création de quelqu'un. Quel est son statut hein, parmi cette galerie de personnages hein. Donc, est-ce que l'orthonyme n'est pas aussi une création, un hétéronyme, comme les autres?
Et puis, cette question de l'amour, qui est quand même à la fois centrale pour un poète qui écrit des odes comme Ricardo Reis, qui l'a été, en tout cas, un peu dans les textes peut-être moins dans la réalité pour Fernando Pessoa, et puis qui est quand même un des ressorts romanesques toujours extrêmement important pour un romancier, Sarah Greenhagen.
Oui, et les deux sujets sont liés chez Saramago, l'altérité et l'amour. Ricardo Reis n'est plus l'hétéronyme. Il se transforme grâce aux rencontres qu'il fait. Je pense surtout à Lydia. C'est une muse de sa poésie qui devient une forme de chambre. Elle travaille dans l'hôtel où Ricardo Reis séjourne. Et Lydia, elle est contraire de Ricardo Reis. Et ça, c'est important. C'est quand on rencontre les autres qu'on peut se transformer aussi. Et Ricardo Reis, il n'est plus l'hétéronyme. Il va se transformer. Il sera obligé à regarder. Il ne veut pas. Il veut être sage, comme Sylvia disait. Il veut être indifférent à tout. Mais Lydia, son frère, par exemple, est un marin communiste. Et Lydia va introduire aussi la politique dans la vie de Ricardo Reis. C'est Lydia qui va lui dire... Il faut faire attention avec la police politique. Elle connaît la renommée de la police politique. Et cet amour-là, c'est très différent aussi de l'amour avec Marcinda, qui est une relation possible, bourgeoise, même un peu, les deux disent, on est en train d'échanger des fleurs. C'est pas très naturel ce qu'on fait. Et avec Lydia, tout est tellement spontané. Elle est très sincère aussi. Donc, ce sont les deux choses, l'altérité et l'amour. Surtout entre Ricardo Reis et Lydia.
Écoutons justement un extrait d'une ode de Ricardo Reis.
Avec le vin aussi, je verse dans la coupe l'oubli. J'en serai tout joyeux puisque la bonne fortune ignore. Quels souvenirs, quelle préscience font sourire. Faisons-nous non la vie, mais l'âme pour le moins des bêtes, grâce à la pensée, bien à l'abri au creux de l'impalpable destinée qui n'a pas plus d'espoir que de mémoire. Mortel, ma main porte à mes lèvres mortelles le vin passager en sa coupe frêle, et j'ai les yeux gris de buée, eux qui sont faits pour ne plus voir.
Une de ces odes amoureuses de Ricardo Reis, où justement le personnage de Lydia fait son apparition, celle-ci consacrée plutôt au vin dans la coupe. Ça rappelle les quatrains inspirés d'Omar Khayyam que Pessoa a écrit tout au long de sa vie. Le génie de Saramago, c'est finalement de réécrire, de réutiliser un peu tous les éléments, les personnages qui sont dans la vie et l'œuvre de Pessoa, dans Lisbonne, dans l'histoire du Portugal, pour tisser justement, fabriquer une espèce de labyrinthe qui est comme une maquette, en fait, en beaucoup de dimensions de la ville dans sa plus grande profondeur, Yves Léonard.
Ah oui, vaste sujet, mais effectivement, c'est tout à fait fascinant, la maîtrise qu'a Saramago. Et pour revenir sur le rapport à l'histoire et à la situation politique du pays dans les années 1930, moi je retiens cette définition que je trouve extraordinaire, qu'il a livrée par le biais de Fernando Pessoa, du dictateur Salazar. Il en livre une définition synthétique qui dit ceci: c'est le dictateur, le protecteur, le père, le professeur, le pouvoir patelin, un quart de sacristain, un quart de Sibylle, un quart de Sébastien, un quart de Sidonio, celui qui convenait le mieux à nos habitudes et à notre tempérament. Voilà ce que déclare, et quand on relit cette phrase avec évidemment toute la culture, le rapport à l'histoire et à la politique de Saramago, ça prend une dimension, une pertinence, et ça, c'est tout le talent de Saramago, de rassembler en quelques mots l'essentiel d'un parcours biographique, et je pense qu'on a difficilement atteint un tel niveau de précision et de synthèse pour évoquer ce personnage, lui aussi labyrinthique et complexe, qu'était Salazar dans les années 1930.
Alors, il faut dire aussi des mots peut-être du style de Saramago. Écoutons-le nous parler justement des mots.
Vous savez, si Goethe n'existait pas, si Shakespeare n'existait pas, nous serions là comme nous sommes. Il y aurait une différence, on ne pourrait pas parler de Goethe, on ne pourrait pas parler de Shakespeare. Mais les mots, et pas seulement les mots, parce qu'on dit les mots, on pense à la littérature, mais on pense au droit, à la philosophie aussi, etc. Non, il y a des forces. Parce que vous savez, trop souvent, les mots sont là pour servir à des choses qui n'ont rien à voir avec Goethe ou avec Shakespeare. Les mots, ils servent à tout. Et à tous. Et on les use, on les manipule, on fait des choses belles, c'est vrai, avec les mots, mais aussi des choses monstrueuses.
cette dimension politique du langage. Nous entendons José Saramago nous dire que les mots, bon, c'est d'un côté les mots de Shakespeare et de Goethe, c'est-à-dire la littérature, les siens, ce qu'il utilise, mais c'est aussi justement les mots de la propagande, des journaux et de la politique, Sarah Gonagall.
Oui, cette réflexion sur les styles et sur la construction d'un style est très liée à la bibliothèque, ça c'est sûr. On n'est jamais seul dans les langages et on n'est jamais seul à l'écrit. Et ça, c'est très très important pour Saramago. On voit dans ces romans-là beaucoup de citations. Parfois, on s'en rend pas compte. Et je pense, par rapport au style, il est très important de revenir à Jorge Luis Borges. Le style de ses romans est très borgésien. Pas que ses romans, d'autres aussi, il va revenir. Il y a deux niveaux, des éléments et plus évidents, les miroirs, les labyrinthes et tout ça. Mais aussi, c'est sous la forme des anachronismes, des mélanges. Il fait exprès souvent de mélanger deux temps différents. Pour ce qui est du style de Saramago, Saramago s'est reconnu surtout, son style surtout à partir des Relevés des Terres. C'est là qu'il y a vraiment un changement.
L'allongement interminable de ces phrases, vous voulez dire, en parlant de changement.
C'est l'oralité. C'est ça, l'oralité est très très importante et c'est pas par hasard que ça commence. Bien sûr qu'on peut, quand on lit ses récits, ses contes, quand on lit Manuel des peintures, des calligraphies, on peut faire des rapprochements, c'est évident. Mais c'est l'oralité des Relevés des Terres, les travailleurs qui parlent, on entend la voix des travailleurs, c'est ça qui est très important et ça va continuer. Et aussi les narrateurs. C'est les narrateurs, on entend quelqu'un qui nous parle, qui parle directement au lecteur, qui nous interpelle, qui nous invite à participer ou non, à faire attention à l'histoire. L'année n'est pas une invitation à participer, l'année est une invitation à ne pas répéter l'histoire. Et c'est pour ça qu'il invite tout le temps les lecteurs. C'est les narrateurs peut-être un peu cette marque des styles très importante de Saramago.
Sylvia Amorim, nous lisons la traduction de l'année de la mort de Ricardo Reis, mais est-ce qu'on entend le portugais des années 30 justement dans l'original portugais? Est-ce que Saramago utilise cette langue de la rhétorique des débuts de la dictature ou celle de Fernando Pessoa? Est-ce qu'il joue avec ça?
Il joue avec le mélange des styles, le mélange des genres, la polyphonie. Et à certains moments, il y a aussi la voix de Saramago qui est la voix d'un homme qui écrit dans les années 80. Mais il joue très habilement avec toutes ces voix, tout ce concert de voix. Et bon, les romans de Saramago sont connus pour être des romans très polyphoniques. Hein, et on en a un exemple avec l'année de la mort de Ricardo Reis. Alors Saramago disait qu'il écrivait effectivement comme il entendait le discours. Et d'ailleurs, il reproduit cela avec une ponctuation qui est tout à fait particulière. Alors dans la traduction, on ne va pas aussi loin que dans l'original. En portugais, le texte a une ponctuation encore moins conventionnelle que celle qu'on peut voir dans la traduction. Donc, évidemment, pas de signe de changement de locuteur, par exemple. On n'a pas de guillemets, pas de tirets. Mais aussi, entre deux voix différentes, souvent, il n'y a qu'une virgule. Donc, il faut que le lecteur soit extrêmement attentif pour savoir qui parle, quel est le personnage qui parle. Mais en général, l'interprétation n'est pas si compliquée que cela. On arrive à suivre. Le roman n'est pas du tout hermétique. On arrive à distinguer les voix. Et justement, si le lecteur est un bon lecteur, il parvient à mettre la bonne intonation et à repérer justement à quel moment on est en train de lire un extrait de journal avec un ton un peu grandiloquent, on est dans la propagande, ou à quel moment est-ce que c'est la voix du narrateur qui est celle de Saramago, il intervient plusieurs fois directement dans le roman, à quel moment est-ce que c'est le personnage, bon, etc.
J'aimerais qu'on dise aussi quelques mots en conclusion, Yves Léonard, peut-être, du rapport de Saramago à l'Espagne et à la présence de la guerre d'Espagne, justement, dans le roman, qui est quand même cette présence qui est là et qui finalement infuse un peu sa violence jusque dans les pages pourtant très littéraires de cette Lisbonne labyrinthique.
Oui, alors c'est une présence, je dirais, là encore, il traduit l'importance de ce thème de la relation ibérique entre les deux voisins, si compliquée du côté des Portugais, si obsédante à bien des égards depuis la fondation du royaume. Et on voit bien que, alors la guerre civile, évidemment, parce qu'elle est aux portes du Portugal, parce qu'elle a une résonance politique forte, et il y a plusieurs passages qui en témoignent très très clairement, y compris le massacre de Badajoz, qui est évoqué très très précisément. Donc cette guerre civile est obsédante, mais c'est un rapport à l'ibérisme, si vous voulez, et que Saramago... alors d'abord, le roman commence par l'évocation de Camoens, qui lui aussi, Camoens, quand il va publier les Lusiades, on est dans une crise qui va advenir vis-à-vis de l'Union ibérique, puisque Philippe II, quelques années plus tard, va prendre le contrôle. Et donc ici, la mer s'achève et la terre commence, qui est l'inversion de la formule de Camoens, si présente dans la culture portugaise. Et du côté de Saramago, ça ouvre la voie à cette réflexion sur l'ibérisme, y compris dans sa propre vie, mais là je ne suis pas spécialiste à proprement parler, mais quelques mois plus tard, quelques années plus tard, il va écrire ce fameux ouvrage Le Radeau de Pierre. Le Radeau de Pierre, qui est une réflexion tout à fait étonnante sur le détachement symbolique de la péninsule ibérique, avec une fracture qui s'ouvre à la frontière pyrénéenne et qui détache la péninsule ibérique de l'ensemble du continent européen. Et c'est quelques semaines, quelques mois, au moment où le Portugal et l'Espagne font leur entrée dans l'Union européenne, en 1986. Donc c'est tout à fait étonnant aussi ce rapport à la question ibérique et dans sa propre vie, puisque lui-même a vécu les dernières années de sa vie, sauf erreur de ma part, aux Canaries.
À Lanzarote.
Voilà, cette dimension très très forte. Mais dans le roman, c'est une des clés, évidemment, très très importante, et cette présence obsédante. Et là, on voit l'intervention du narrateur, parce que Saramago, à plusieurs moments, s'exprime finalement, par ce biais-là, sur l'international de l'ordre, comme il l'appelle, et ce fond, justement, cette religiosité très prégnante, cet esprit de croisade, qui est très fort côté espagnol, bien sûr au moment de la guerre civile, mais qui dit à quel point ça a des correspondances étroites avec ce qu'il a observé au Portugal, finalement.
Saramago, pour conclure.
Oui, je pense aussi à une autre guerre qui est présente, celle entre l'Italie et l'Éthiopie. Et Ricardo Reis doit toujours faire face à ces événements qu'il préférerait ignorer. Et pour reprendre, Monsieur Yves Léonard vient de parler du début du roman, qui va, Camoens, à son époque, il parlait de la mer. Il nous invitait à tourner les regards vers la mer. Saramago, comme Almeida Garrett, l'écrivain du 19e siècle, l'avait fait avant lui, nous invite à tourner les regards vers la terre, nous invite à voyager au Portugal. Et c'est un kipit, c'est l'un des plus connus de Saramago, peut-être même de la littérature portugaise du 20e siècle. Il est repris aussi à la fin du roman. Pour moi, il y a un espoir à la fin, c'est ici où la mer finit et où la terre attend.
Tout à fait.
Magnifique, merci beaucoup. Merci Sylvia Amorim, merci Sarah Grunhagen et merci Yves Léonard de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée à l'année de la mort de Ricardo Reis de José Saramago, une émission réalisée par Laure-Hélène Planchet avec Pierrick Charles à la technique aujourd'hui. Merci à Pierre Chabert qui m'a aidé à la préparer. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour parler du roman de Herta Müller, Le renard était déjà le chasseur. À demain.